Radio Vatican présente Fratelli Tutti, la lettre encyclique du Saint-Père François sur la fraternité et l'amitié sociale. Adaptation radiophonique de Mara Micelli. Local et universel.
Il convient de rappeler qu'entre la globalisation et la localisation se produit aussi une tension. Il faut prêter attention à la dimension globale pour ne pas tomber dans une mesquinerie quotidienne. En même temps, il ne faut pas perdre de vue ce qui est local, ce qui nous fait marcher les pieds sur terre. L'union des deux empêche de tomber dans l'un de ces deux extrêmes. L'un, que les citoyens vivent dans un universalisme abstrait et globalisant. L'autre, qu'ils se transforment en un musée folklorique d'ermites renfermés, condamnés à répéter toujours les mêmes choses, incapables de se laisser interpeller par ce qui est différent, d'apprécier la beauté que Dieu répand hors de leurs frontières. Il faut considérer ce qui est global, qui nous préserve de l'esprit de clocher. Lorsque la maison n'est plus un foyer, mais une prison, un cachot, ce qui est global nous sauve, parce qu'il est comme la cause finale qui nous conduit vers la plénitude. En même temps, il faut, avec soin, prendre en compte ce qui est local, parce qu'il a quelque chose que ne possède pas ce qui est global, le fait d'être la levure, d'enrichir, de mettre en marche les mécanismes de subsidiarité. Par conséquent, la fraternité universelle et l'amitié sociale constituent partout deux pôles inséparables et coessentiels. Les séparer entraînent une déformation et une polarisation préjudiciables.
La saveur locale.
La solution ne réside pas dans une ouverture qui renonce à son trésor propre. Tout comme il n'est pas de dialogue avec l'autre sans une identité personnelle. De même, il n'y a d'ouverture entre les peuples qu'à partir de l'amour de sa terre, de son peuple et de ses traits culturels. Je ne rencontre pas l'autre si je ne possède pas un substrat dans lequel je suis ancré et enraciné, car c'est de là que je peux accueillir le don de l'autre et lui offrir quelque chose d'authentique. Il n'est possible d'accueillir celui qui est différent et de recevoir son apport original que dans la mesure où je suis ancré dans mon peuple avec sa culture. Chacun aime et prend soin de sa terre avec une attention particulière et se soucie de son pays. Tout comme chacun doit aimer et prendre soin de sa maison pour qu'elle ne s'écroule pas, car les voisins ne le feront pas. Le bien de l'univers exige également que chacun protège et aime sa propre terre. Autrement, les conséquences du désastre d'un pays finiront par affecter la planète tout entière. Cela se fonde sur le sens positif du droit de propriété. Je protège et je cultive quelque chose que je possède, de telle sorte que cela puisse être une contribution au bien de tous.
En outre, il s'agit d'un présupposé pour des échanges sains et enrichissants. L'arrière-plan de l'expérience de la vie dans un milieu et une culture déterminée est ce qui permet à quelqu'un de percevoir des aspects de la réalité, alors que ceux qui n'ont pas cette expérience sont incapables de les saisir avec la même facilité. L'universel ne doit pas être l'empire homogène, uniforme et standardisé d'une forme culturelle dominante unique qui finalement fera perdre au polyèdre ses couleurs et aboutira à la lassitude. C'est la tentation exprimée dans le récit antique de la tour de Babel. La construction d'une tour qui puisse atteindre le ciel n'exprimait pas l'unité entre les différents peuples à même de communiquer à partir de leur diversité. C'était plutôt une tentative mal avisée, née de l'orgueil et de l'ambition, de créer une unité différente de celle voulue par Dieu dans son plan providentiel pour les nations.
Il y a une fausse ouverture à l'universel, procédant de la superficialité vide de celui qui n'est pas capable de pénétrer à fond les réalités de sa patrie, ou bien de celui qui nourrit un ressentiment qu'il n'a pas surmonté envers son peuple. Dans tous les cas, il faut toujours élargir le regard pour reconnaître un bien plus grand qui sera bénéfique à tous. Mais il convient de le faire sans s'évader, sans se déraciner. Il est nécessaire d'enfoncer ses racines dans la terre fertile et dans l'histoire de son propre lieu, qui est un don de Dieu. On travaille sur ce qui est petit, avec ce qui est proche, mais dans une perspective plus large. Ce n'est ni la sphère globale qui annihile, ni la partialité isolée qui rend stérile, c'est le polyèdre, où, en même temps que chacun est respecté dans sa valeur, le tout est plus que la partie, et plus aussi que la simple somme de celle-ci.
L'horizon universel.
Les narcissismes, obsédés par le particularisme local, ne sont pas un amour sain de son peuple et de sa culture. Ils cachent un esprit étriqué, qui, à cause d'une certaine insécurité et par peur de l'autre, préfère créer des remparts pour se protéger. Or, il n'est pas possible d'être local de manière saine sans une ouverture sincère et avenante à l'universel, sans se laisser interpeller par ce qui se passe ailleurs, sans se laisser enrichir par d'autres cultures ou sans se solidariser avec les drames des autres peuples. Ce particularisme local se recroqueville d'une manière obsessive sur quelques idées, coutumes et sécurités, incapable d'admiration devant la multitude de possibilités et de beautés que le monde tout entier offre et dépourvu d'une solidarité authentique et généreuse. Ainsi, la vie locale n'est plus authentiquement réceptive, elle ne se laisse plus compléter par l'autre, elle est par conséquent limitée quant à ses possibilités de développement, devient statique et dépérit. Car au fond, toute culture saine est ouverte et accueillante par nature, de telle sorte qu'une culture sans valeurs universelles n'est pas une vraie culture.
Reconnaissons que moins une personne a une ouverture d'esprit et de cœur, moins elle pourra interpréter la réalité environnante dans laquelle elle se trouve. Sans relation et sans contraste avec celui qui est différent, il est difficile de se comprendre de façon claire et complète soi-même, ainsi que son propre pays. Puisque les autres cultures ne sont pas des ennemis contre lesquels il faudrait se protéger, mais des reflets divers de la richesse inépuisable de la vie humaine. En se regardant soi-même par rapport au point de référence de l'autre, de celui qui est différent, chacun peut mieux reconnaître les particularités de sa personne et de sa culture, leur richesse, leurs possibilités et leurs limites. L'expérience qui se réalise à un endroit doit être développée en contraste et en syntonie avec les expériences des autres qui vivent dans des contextes culturels distincts.
En réalité, une ouverture saine ne porte jamais atteinte à l'identité. Car en s'enrichissant avec des éléments venus d'ailleurs, une culture vivante ne copie pas ou ne reçoit pas simplement, mais intègre les nouveautés à sa façon. Cela donne naissance à une nouvelle synthèse qui profite finalement à tous, parce que la culture d'où proviennent ses apports finit par être alimentée en retour. C'est pourquoi j'ai exhorté les peuples autochtones à prendre soin de leurs racines et de leurs cultures ancestrales. Mais j'ai tenu à clarifier que mon intention n'est pas de proposer un indigénisme complètement fermé, un historique, figé, qui se refuserait à toute forme de métissage, puisque la propre identité culturelle s'approfondit et s'enrichit dans le dialogue avec les différences, et le moyen authentique de la conserver n'est pas un isolement qui appauvrit. Le monde croît et se remplit d'une beauté nouvelle grâce à des synthèses successives qui se créent entre des cultures ouvertes en dehors de toute imposition culturelle.
Pour stimuler une saine relation entre l'amour de la patrie et l'intégration cordiale dans l'humanité vue dans sa totalité, il est bon de rappeler que la communauté mondiale n'est pas le résultat de la somme des pays distincts, mais la communion même qui existe entre eux, l'inclusion mutuelle qui est antérieure à l'apparition de tout groupe particulier. Chaque groupe humain s'intègre dans ce réseau de communion universelle qui trouve là sa beauté. De ce fait, chaque personne qui naît dans un contexte déterminé sait qu'elle appartient à une famille plus grande sans laquelle il est impossible de se comprendre pleinement.
Cette approche suppose, en définitive, qu'on accepte sans réserve qu'aucun peuple, tout comme aucune culture ou personne, ne peut tout obtenir de lui-même. Les autres sont constitutivement nécessaires pour la construction d'une vie épanouie. La conscience d'avoir des limites ou de n'être pas parfait, loin de constituer une menace, devient l'élément clé pour rêver et élaborer un projet commun. Car l'homme est tout autant l'être frontière qui n'a pas de frontières.
À partir de la région de chacun.
Grâce à l'échange régional par lequel les pays les plus faibles s'ouvrent au monde entier, l'universalité peut préserver les particularités. Une ouverture adéquate et authentique au monde suppose la capacité de s'ouvrir au prochain dans une famille des nations. L'intégration culturelle, économique et politique avec les peuples voisins devrait être accompagnée d'un processus éducatif qui promeuve la valeur de l'amour du prochain premier exercice indispensable pour obtenir une intégration universelle saine.
Dans certains quartiers populaires, où chacun ressent spontanément le devoir d'accompagner et d'aider le voisin, survit encore l'esprit de voisinage. Dans ces endroits qui préservent ces valeurs communautaires, on entretient des relations de proximité caractérisées par la gratuité, la solidarité et la réciprocité, à partir du sens d'un « nous » de quartier. Puisse cela se vivre également entre les pays voisins, afin qu'ils soient capables de construire des relations cordiales de voisinage entre leurs peuples. Mais les visions individualistes se manifestent dans les relations entre pays. Le danger de vivre en se méfiant les uns des autres, en considérant les autres comme de dangereux concurrents ou ennemis, en vient à affecter les relations entre les peuples d'une même région. Peut-être avons-nous été éduqués dans cette peur et dans cette méfiance.
Certaines nations puissantes et de grandes entreprises profitent de cet isolement et préfèrent négocier avec chaque pays séparément. En revanche, pour les petits pays ou pauvres, s'ouvre la possibilité de conclure avec leurs voisins des accords régionaux qui leur permettent de négocier en bloc et d'éviter de devenir des segments marginaux et dépendants des grandes puissances. Aujourd'hui, aucun État national isolé n'est en mesure d'assurer le bien commun de sa population.
Cinquième chapitre. La meilleure politique.
Une meilleure politique mise au service du vrai bien commun est nécessaire pour permettre le développement d'une communauté mondiale, capable de réaliser la fraternité à partir des peuples et des nations qui vivent l'amitié sociale. Au contraire, malheureusement, la politique prend souvent aujourd'hui des formes qui entravent la marche vers un monde différent.
Populismes et libéralisme.
Le mépris des faibles peut se cacher sous des formes populistes qui les utilisent de façon démagogique à leur fin, ou sous des formes libérales, au service des intérêts économiques des puissants. Dans les deux cas, on perçoit des difficultés à penser un monde ouvert, où il y ait de la place pour tout le monde, qui intègre les plus faibles et qui respecte les différentes cultures.
Populaire ou populiste ?
Au cours des dernières années, le terme « populisme » ou « populiste » a envahi les médias et le langage en général. Il perd ainsi la valeur qu'il pourrait avoir et devient l'une des polarités de la société divisée, à telle enseigne qu'on prétend classer toutes les personnes, les groupes, les sociétés et les gouvernements à partir d'une division binaire, populiste ou non populiste. Il n'est plus possible qu'une personne exprime son opinion sur un thème sans qu'on essaie de la classer dans l'un des deux camps, parfois pour la discréditer injustement ou pour l'exalter à l'excès.
La prétention d'établir le populisme comme une grille de lecture de la réalité sociale a une autre faiblesse. Elle ignore la légitimité de la notion de peuple. La tentative de faire disparaître du langage cette catégorie pourrait conduire à éliminer le terme même de démocratie, c'est-à-dire le gouvernement du peuple. Même si on veut affirmer que la société est plus que la simple somme des individus, on a besoin du vocable « peuple ». La réalité, c'est qu'il y a des phénomènes sociaux qui structurent les majorités, qu'il existe des méga-tendances et des prospections communautaires. On peut également penser aux objectifs communs, au-delà des différences, pour façonner un projet commun. Enfin, il est très difficile de projeter quelque chose de grand à long terme si cela ne devient pas un rêve collectif. Tout cela est exprimé par le substantif « peuple » et par l'adjectif « populaire ». S'il n'était pas pris en compte avec une critique solide de la démagogie, on laisserait de côté un aspect fondamental de la réalité sociale.
Radio Vatican vous a présenté Fratelli Tutti, la lettre encyclique du Saint-Père François sur la fraternité et l'amitié sociale. Adaptation radiophonique de Mara Micelli. Avec les voix de Manuela Affigi, Muando Babualo, Olivier Bonnel, Marie Duhamel, Xavier Sartre, Cyprien Viet
et Jean-Charles Puzolu.
Assistance technique de Roberto Colangeli et Mario Scaton. Une production Radio Vatican en collaboration avec la Libreria Editrice Vaticana.